journal, le journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Une anti-IVG va-t-elle diriger le Parlement européen? Nous serons à Strasbourg où un certain malaise gagne les rangs avant l'élection à la présidence aujourd'hui. Une députée maltaise, opposition controversée et favorite. Le masque à l'extérieur, c'est en train de devenir un feuilleton à Paris, retoqué par la justice. Il revient ce matin, mais seulement dans certaines zones, on va faire le point. Dans ce journal aussi, Parcoursup, thème surprise de la campagne présidentielle. Et direction Rome pour visiter l'une des villas les plus chères du monde.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, le directeur de Sciences Po Paris, j'ai nommé Mathias Vichra.
France Inter.
Une femme à la tête du Parlement européen, eh bien ce n'est pas arrivé depuis 2002.
Après Nicole Fontaine et Simone Veil, les deux seules présidentes de l'histoire de cette Assemblée, une eurodéputée maltaise est grande favorite du scrutin prévu aujourd'hui à Strasbourg pour succéder à l'italien David Sassoli. Elle s'appelle Roberta Metsola, vient de la droite européenne et son profil ne fait pas l'unanimité et pour cause, elle est connue pour ses prises de position contre l'avortement, une anti IVG à la tête du Parlement, pour certains, le message serait très inquiétant. Angélique Boin.
40 ans après Simone Veil, icône de l'IVG, comment pouvons-nous élire une telle femme, s'étonne l'eurodéputée française Manon Aubry, coprésidente du groupe de la gauche radicale.
Élire une femme qui est contre le droit à l'avortement en 2022, je trouve que c'est une claque pour toutes les femmes qui défendent le droit à l'avortement. Je pense évidemment aux Polonaises, par exemple. Et c'est un terrible signal, au final, pour le droit des femmes en Europe.
Issue du dernier pays dans l'Union où l'avortement est totalement illégal, y compris en cas de viol, la Maltaise conteste cette étiquette d'anti-avortement. On me caricature, a-t-elle confié au Figaro, sans pour autant totalement clarifier sa position. En septembre, elle s'est par ailleurs abstenue sur une résolution concernant cette fois les violences faites aux femmes. Deux tâches sur un CV contrasté, car sur d'autres sujets, Roberta Metsola fait figure de progressiste, elle défend les communautés LGBT+, et le droit d'asile. Vice-présidente du Parlement, élue depuis 9 ans, ses compétences et sa connaissance des dossiers ne font pas débat. Roberta Metsola est aussi une femme, jeune, 42 ans, issue d'un petit pays. Voilà pour la face moderne de celle qui reste favorite en vertu d'un accord interparti, un accord de mi-mandat entre la droite, les sociodémocrates et les centristes qui porte sur la répartition des postes clés au Parlement et sur une nouvelle feuille de route politique pour les 2 ans et demi à venir. Strasbourg, Angélique Boin, France Inter.
Et si Roberta Metsola a de fortes chances donc de l'emporter, elle n'est pas seule en lice. Parmi ses concurrents, une écologiste suédoise et un eurosceptique polonais. Il peut y avoir aujourd'hui jusqu'à 4 tours de scrutin. L'heureux élu accueillera demain Emmanuel Macron pour son discours devant le Parlement européen à l'occasion de la présidence française de l'Union.
Il est 7h32, les règles sur le port du masque changent encore à Paris.
Oui, à peine retiré sur décision de la justice, il fait son retour à l'extérieur dans la capitale, mais aussi dans les autres départements franciliens et en Loire-Atlantique. Les préfets ont pris de nouveaux arrêtés pour se conformer aux tribunaux administratifs qui avaient retoqué les précédents. Désormais, le masque n'est plus obligatoire partout, mais seulement là où il y a du monde. Et pour les Parisiens que vous avez rencontrés, Faustine Calmel, ça devient compliqué à suivre.
Sur une place fréquentée entre un kiosque à journaux et une terrasse de café, Zoé porte son masque à moitié, bouche couverte et nez dehors, hésitante sur la règle à appliquer.
Alors, on doit porter le masque à l'intérieur et après en ville, je crois que ça dépend des villes. Ça change tout le temps, mais je crois qu'à Paris, oui, on doit le porter à l'extérieur.
Oui, mais pas partout. Désormais, le masque est obligatoire sur les marchés et brocantes, aux arrêts de bus, près des gares, des écoles, dans les files d'attente ou près des centres commerciaux, comme dans cette rue très passante où Aïcha et Gilles arrivent non masqués.
Je crois que c'est pas obligatoire.
Il y a une suspension de décision de justice, mais je sais pas si c'est toujours valable ou pas, quoi.
Ça devient compliqué, là. Un coup oui, un coup non.
Des revirements qui ont eu raison de la volonté du couple à respecter les règles.
J'arrive plus à respirer, là. J'agorge, j'arrive ma langue.
Pour moi, l'extérieur, c'est pas possible, quoi. Je trouve ça complètement inutile. J'avoue qu'en extérieur, je le mets pas. Je plaide coupable.
Zoé, elle ne pourra jamais retenir, dit-elle, tous les lieux concernés par le port du masque, alors elle va conserver sa technique.
En fait, je le mets un peu quand je vois que les personnes autour de moi le mettent.
À noter que cette obligation ne s'applique pas aux enfants de moins de 11 ans, aux personnes en situation de handicap ou à celles qui font du sport.
Faustine Calmel, l'annonce la veille de la rentrée avait déjà irrité les enseignants, voilà qui ne va rien arranger. On apprend que Jean-Michel Blanquer a dévoilé le protocole sanitaire à l'école le 2 janvier, depuis ses vacances à Ibiza. C'est en en visio depuis l'île espagnole qu'il a donné son interview aux Parisiens. Révélation de Mediapart que France Inter a pu confirmer. À en croire son cabinet, ça n'a rien changé sur le fond. Mais cela ne convainc pas l'opposition. Le patron du PS, Olivier Faure, demande ce matin la démission du ministre de l'Éducation. La gauche qui a renoncé, pour l'instant en tout cas, à toute idée d'union pour la présidentielle. Le verdict de la primaire populaire dans 10 jours changera-t-il la donne? 250 000 sympathisants se sont déjà inscrits pour voter, mais une seule candidate accepte de jouer le jeu, c'est Christiane Taubira, l'ex-garde des Sceaux, invitée d'Inter ce matin à 8h20. Ses soutiens sont les plus mobilisés dans cette primaire, mais ils ne sont plus les seuls, Antoine Gignot.
Leur dernière invention, c'est un podcast sur Christiane Taubira. Les militantes du collectif Taubira pour 2022 comptent désormais près d'une centaine de groupes locaux et des relais numériques pour Léanie Buaillon, porte-parole. Le vote de la primaire populaire, c'est le rendez-vous qui peut tout changer.
Sur notre page Facebook, nous avons presque 100 000 personnes maintenant. Twitter, Instagram, je sais qu'on a à peu près 22 000 personnes. Après, on a aussi toute une partie de nos signataires qui reçoivent une newsletter. C'est la dernière ligne droite et il faut qu'on se mobilise massivement. Après, je ne sais pas quelles sont les consignes dans les autres partis.
De fait, même si la plupart des candidats en refusent le principe, la primaire populaire enregistre une hausse record des inscriptions, tous azimuts. Si à l'automne, Christiane Taubira était en tête des personnalités plébiscitées sur le site internet, difficile désormais de savoir qui peut sortir vainqueur du scrutin, explique Mathilde Himmer, la porte-parole.
On voit par exemple dans les conversations Twitter qu'il y a des insoumis qui appellent à s'inscrire pour voter pour Jean-Luc Mélenchon pour qu'il gagne ce scrutin. J'ai aussi plein d'appels quotidiennement de gens du mouvement climat qui disent « moi je vais m'inscrire pour voter Yannick Jadot et j'espère qu'il gagnera ce scrutin ». Et le vote est très très loin d'être écrit.
Un vote dont l'impact dépendra du nombre d'inscrits, précisent les organisateurs qui rappellent que pour peser dans la suite de la campagne, ils disposent de près d'1 million d'euros.
Et à gauche toujours, ils sont plusieurs à vouloir en faire un thème de campagne. Parcoursup, si elle est élue, Anne Hidalgo promet de supprimer la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur. Un brise-vocation dénonce Jean-Luc Mélenchon quand Yannick Jadot critique une boîte noire. Mais Sonia Princey, Parcoursup, est-ce vraiment le problème aujourd'hui face au manque de place à l'université ?
L'ancien système APB était déjà critiqué. C'est au tour de Parcoursup qui pourtant, sur certains aspects, est plus satisfaisant. Il n'y a plus de tirage au sort arbitraire et de proposition unique. Avec Parcoursup, comme le rappelle Jérôme Théillard, son concepteur, le candidat formule ses vœux sans les classer et donne ses réponses au fil des propositions qu'il reçoit.
À travers Parcoursup, c'est aussi la liberté de choix et d'expression des vœux. C'est aussi le dernier mot qui appartient à un candidat. C'est l'accompagnement humain. Dans les lycées, je crois qu'on n'insiste pas assez sur ce travail des proviseurs, des professeurs principaux, des psychologues de l'éducation nationale. Ce travail d'accompagnement, il est ce qui fait le cœur de Parcoursup.
Mais c'est une procédure qui traîne en longueur, qui est stressante. Et contrairement à ce qui est affiché, même des licences à l'université sont sélectives puisqu'il y a un nombre de places limité. En réalité, c'est le manque de places dans certaines filières très demandées et les modalités de sélection qui peuvent faire apparaître Parcoursup comme un système inhumain. Mélanie Luce, la présidente du syndicat étudiant UNEF, a des solutions.
Il faut des propositions concrètes pour sortir de la sélection. Supprimer la sélection, ça veut dire ouvrir des formations. On demande au total 130 000 places sur 5 ans et supprimer totalement Parcoursup pour la rentrée 2023 et réinscrire le libre accès dans la loi.
Quel que soit le logiciel, le défi est de trouver une adéquation entre le nombre de bacheliers qui n'a cessé d'augmenter et le nombre de places dans l'enseignement supérieur.
Sonia Princey, les prix des carburants battent un nouveau record en France. Le gasoil vient de dépasser 1,60€. Le litre en moyenne, 1,68€ pour le sans-plomb 95, et ce n'est pas prêt de se calmer. En bourse, le cours du baril de Brent est ce matin au plus haut depuis 2014. Les familles de ces 77 victimes redoutent qu'il en fasse une nouvelle tribune politique. En Norvège, Anders Breivik, le tueur de l'île d'Utøya, va demander aujourd'hui sa remise en liberté. Mais cette requête n'a quasiment aucune chance d'aboutir. Breivik a été condamné en 2012 à 21 ans de prison, avec possibilité d'extension illimitée de cette peine. 4 ans d'enquête et à la fin un rapport très épais qui devrait secouer le petit monde du ballon ovale. L'équipe révèle ce matin les conclusions des policiers sur les liens entre le patron de la fédération de rugby, Bernard Laporte, et l'homme d'affaires Moed Altrad à la tête du club de Montpellier. Winnie Claret, ce rapport vient en fait étayer de vieux soupçons.
On connaît depuis 4 ans les soupçons de favoritisme qui pèsent sur Bernard Laporte et l'homme d'affaires Moed Altrade, ainsi que sur d'autres cadres de la Fédération française de rugby. Cette fois, les enquêteurs apportent de très nombreux éléments pour les étayer et le journal L'Équipe nous révèle l'ampleur de cette affaire. Tout part de la commission d'appel de la FFR en juin 2017, qui réduit largement les sanctions qu'encourt alors le club de Montpellier, qui appartient à Moed Altrade. Les policiers épluchent les fadettes de Laporte et d'Altrade le jour de la décision et découvrent qu'ils ont multiplié les appels téléphoniques et les SMS entre eux, mais aussi avec le président de la commission d'appel, Jean-Daniel Simonet. Après cet épisode, les enquêteurs déroulent la pelote et voient se dessiner une affaire tentaculaire, mêlant corruption présumée, prise illégale d'intérêts et abus de biens sociaux, toujours en faveur du groupe Altrade et de son club de rugby, jusqu'à l'attribution du sponsor maillot du 15 de France.
Alors, y aura-t-il maintenant des suites judiciaires? Le parquet national financier qui a reçu ce rapport n'a pas encore communiqué.
Il est 7h40, elle est estimée à un demi-milliard d'euros.
Et ce qui lui vaut déjà le titre de maison parmi les plus chères du monde. La Villa Aurora à Rome, proposée aux enchères cet après-midi. Cette demeure historique, construite au XVIIe siècle, regorge d'œuvres d'art. Visite guidée de bon matin avec Bruce de Galzin.
Au cœur de Rome, la propriété a des allures de forteresse. C'est la princesse Rita Boncompagni Ludovisi qui nous accueille. Elle est américaine et surtout la troisième épouse du prince Boncompagni Ludovisi, mort en 2018. Comme les héritiers ne s'entendaient pas, le tribunal de Rome a ordonné la mise aux enchères. La princesse veut croire qu'il y aura un acheteur.
Même avant la mort de mon mari en 2018, nous avions eu des offres jusqu'à 350 millions d'euros pour la villa. Et trois d'entre eux étaient des milliardaires que vous reconnaîtriez, je pense. Mais on ne peut pas en parler. Quoi qu'il en soit, on verra bien.
Si elle est estimée à 471 millions d'euros, c'est parce que Caravage a peint un plafond, le seul de toute sa carrière, parce que le Guerchin a lui peint plusieurs fresques magnifiques. Mais à un tel prix, l'État peut-il se permettre de préempter la vente? La princesse n'y croit pas.
Peu importe qui l'achète, mais l'État ne semble pas en mesure de le faire. Avec tous les problèmes qui se passent dans le monde, avec le Covid, les gens qui sont au chômage et tant de choses, je pense que ça n'arrivera pas. Mais qui sait? Ce qui serait vraiment bien, c'est que celui qui l'achète ait la sensibilité que Niccolo et moi avions pour l'art et l'histoire, et qu'il le préserve parce que c'est un monument historique national.
Si les acheteurs ne se montrent pas, le prix baissera de 20% et une ultime vente sera programmée d'ici 3 mois. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Oui, avec 20% en moins, ça devient tout de suite plus abordable.
Merci Alexis Morel. L'édito politique est à suivre.